les dépôts des Afghans. À la fin, au moment où ils ont explosé, à l'été 2010, ils avaient 1,3 million de comptes, qui sont des petits dépôts, vous voyez, c'est des petites gens. L'autre moyen d'accumuler l'argent dans les caisses, ça a été d'obtenir des contrats de distribution des salaires des fonctionnaires afghans, de signer ministère après ministère, avec le ministère de la Culture, avec l'armée et la police essentiellement aussi, parce que c'est un secteur important en Afghanistan, la distribution des salaires. Pour ça, ils ont ouvert extrêmement vite, en quelques années, des antennes un peu partout en Afghanistan, y compris dans les zones où où vous et moi, on va pas. Et où ils avaient un guichet qui était là pour recevoir les hélicoptères et les convois armés qui emmènent le liquide, parce que c'est une banque en Afghanistan, c'est une petite armée, pour distribuer ça aux fonctionnaires. Bon, évidemment, comment ils ont eu ces contrats-là, ces contrats de distribution de salaire, c'est par corruption, bêtement. Ils ont financé en partie la campagne de la réélection d'Hamid Karzai en 2009, et ils ont également accordé des prêts. Et c'est là que l'argent disparaît. Parce que quand vous faites venir comme ça tout cet argent, le jeu, c'est que vous le faites ressortir immédiatement. Il y a un truc qu'on a découvert assez récemment, c'est le FMI qui me le dit, que l'argent n'a jamais vraiment dormi dans les caisses de la Kabul Bank. On l'a appris récemment. Si on appelle ça, c'est un truc qu'on connaît, on appelle ça une chaîne de Ponzi. Le jeu, c'est qu'on met une caisse comme ça d'argent, on fait venir plein de gens, mettez un peu plus d'argent, on va mettre l'argent en commun, on va exploiter ça, ça va donner des revenus, et puis je vais vous en refiler, la personne qui organise ça.
Vous êtes en train de nous raconter l'histoire d'un Madoff
afghan. Un Madoff afghan. Ouais, mais un peu plus que ça, parce que Madoff s'est limité à la finance et lui, il avait des rêves d'empire. C'est un petit gars qui partait de rien, qui voulait faire plus que de la finance, qui a monté, qui a racheté avec cet argent, il a racheté une compagnie d'aviation, il a racheté une télévision, il a investi dans l'immobilier à Dubaï, bref. Ça s'est écroulé. Ça s'est écroulé à l'été 2010, parce que à cette époque-là, on le savait, le marché immobilier de Dubaï, qui avait été un boom immobilier fabuleux,
Un peu fléchi.
légèrement.
Alors le bilan maintenant, on en est où? Elle est fermée, cette banque, j'espère.
Ah bon? Non, non, non. Elle est toujours ouverte. Elle a été séparée en deux parties, plus ou moins. Il y en a une qui est censée être valide. Il y a l'autre qui a récupéré tous les prêts pourris. Il devait y avoir des procès. Le patron a été mis en taule, son vice-patron aussi.
En Afghanistan?
En Afghanistan, ouais, il était revenu dans le pays. Il a passé un an comme ça à faire des allers-retours. Il se pensait vraiment au-dessus des lois, cet homme-là. Et il avait raison, il l'était. Puis il a fini par passer un peu de temps en tôle. Je vous rassure, il a passé un peu plus de 2 mois, mais depuis il est dehors. On n'a pas eu de nouvelles de lui, malheureusement. C'est quelqu'un sur qui je travaille depuis plus d'un an maintenant, et j'ai jamais pu le rencontrer. Alors je parlais à ses copains, je parlais à ses associés, je parlais à ses ennemis. Mais aujourd'hui, ça en est. Bon, il y a toujours 900 millions de dollars qui sont dans la nature. La Banque centrale afghane a remboursé. Le FMI a refusé de rembourser la Banque centrale afghane. Il y a eu une espèce de blocage pendant 18 mois qui a empêché une partie des donneurs étrangers de l'Afghanistan d'envoyer l'argent. Ce qui fait que le budget afghan commençait à sérieusement tomber à court, quoi. Il y avait des mouches qui volaient dans les caisses de plus en plus et ils coupaient certains budgets. Ça s'est débloqué là, à la mi-novembre, parce qu'il y a une grande conférence à Bonn, en Allemagne, le 5 décembre, dans laquelle tous les donneurs étrangers de l'Afghanistan vont se réunir et essayer de redéfinir ce que ça va être jusqu'au retrait des troupes étrangères. Donc pas de prison, pas vraiment de procès. Les grands associés politiques de notre fondateur de banque ont été plus ou moins exonérés, c'est pas officiel, mais ils l'ont été. Sous réserve qu'ils remboursent au moins une partie des sommes, ils ont remboursé les prêts qui ont été publiés, en tout cas découverts et publiés, et on se demande encore combien va revenir. Il y a 75 millions de dollars qui ont été récupérés. Les Afghans parlent de récupérer quelque chose comme 350 millions de dollars de prêts, mais c'est hypothétique, il y a un point d'interrogation là-dessus.
کار دنیا گذران خوش پیر شده عیار جوان من نغم سرای دلی عاشق بسران دنیا گذران دنیا گذران کار دنیا گذران خوش پیر شده عیار جوان من نغم سرای دلی عاشق بسران
Revanche personnelle contre le président sortant Alan García, qui ne pouvait se représenter après deux mandats. Et victoire de taille aussi pour la gauche en Amérique latine, qui ajoute une nouvelle corde à son arc. Ollanta Humala, ancien officier marxiste de 48 ans, est le grand vainqueur de l'élection présidentielle de dimanche au Pérou.
Euronews, 6 juin 2011.
La campagne électorale est finie et ce président sera celui de tous